Bon, si vous voulez, on va commencer. La semaine dernière, j'ai expliqué dans les cours 9 et 10, j'ai présenté un certain nombre de méthodes de piégeage et de refroidissement d'atomes par divers types de techniques, dont le refroidissement laser. Et j'ai commencé à passer en revue un certain nombre d'applications de ces méthodes à des études spectroscopiques, d'une part, à des réalisations d'étalons de fréquence et de temps, et également à des expériences d'interférométrie atomique. Aujourd'hui, je voudrais consacrer le cours 11 à une discussion d'un domaine d'application extrêmement important des méthodes de piégeage et de refroidissement, qui est les gaz quantiques dégénérés. Ce que je voudrais faire, c'est tout d'abord passer en revue les propriétés nouvelles qui apparaissent dans un gaz d'atome identique à très basse température, et montrer qu'il existe plusieurs régimes quantiques suivant les valeurs relatives des diverses longueurs caractéristiques du problème, qui sont la longueur d'onde de Debreuil, lambda de Debreuil, la portée R0 de l'interaction atome-atome et la distance moyenne D entre atomes. Et comme il s'agit d'un domaine absolument immense ici, il n'est pas question que j'entre dans les détails, je voudrais insister sur un petit peu une revue historique des recherches qui se sont poursuivies dans ce domaine pour essayer de montrer comment les idées ont évolué et comment ce domaine de recherche est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je voudrais juste donner quelques équations de base qui sont actuellement les outils essentiels pour analyser ces phénomènes. Et dans le cours suivant, à 11h, je donnerai très rapidement une sélection forcément très très partielle de quelques-uns des résultats les plus importants obtenus avant de passer à une conclusion générale de cet enseignement. Il me semble important aussi de donner un certain nombre de références générales à ce problème. Je rappelle d'abord que j'ai donné 5 cours consécutifs sur la condensation de Bose-Einstein, en 97-98 sur le cas du gaz parfait, en 98-99 sur la description des interactions, en 99-2000 sur les propriétés de cohérence des condensats de Bose-Einstein, en 2000-2001 sur la réponse d'un condensat à divers types d'excitation, et en 2001-2002 sur le problème des rotations des condensats de Bose-Einstein et sur les tourbillons quantiques, les vortex. Toutes ces notes sont évidemment disponibles sur le site web que j'ai rappelé à plusieurs reprises, qui est ici. Je signale également 2 ouvrages récents sur la condensation de Bose-Einstein, un livre de Petick et Smith, paru à Cambridge, un livre de Pitevski et Stringari, paru en 2003 à Clarendon. Ce sont d'excellents livres. Le problème avec ce domaine de recherche, c'est qu'une fois que le livre est sorti, en général, il y a toute une série de phénomènes nouveaux qui ont été étudiés, et je deviens rapidement, il doit nécessairement être complété. Je signale aussi que récemment, en mars dernier, il y a eu un séminaire Poincaré sur la condensation de Bose-Einstein et que les notes, les textes de ces conférences sont publiés et sont disponibles sur ce site web. Donc le plan que je vais suivre aujourd'hui, c'est d'abord passer très rapidement une série de généralités sur les bosons et fermions dans un piège harmonique, sur les statistiques quantiques et puis sur l'identification des diverses longueurs caractéristiques du problème, les divers régimes qui leur sont associés, puis je procéderai à un bref historique de ces recherches. D'abord, les transports quantiques dans un gaz de fermion polarisé, qui a été vraiment le point de départ de ces recherches. Tous les travaux qui ont d'abord été effectués sur l'hydrogène polarisé, et qui n'ont pas été les premiers à aboutir, parce que les premiers travaux à aboutir ont été les recherches sur la condensation de Bose-Einstein des alcalins. Je passerai ensuite à une brève discussion des éléments essentiels de la description des interactions à très basse température, en particulier sur la notion de longueur de diffusion et de pseudo-potentiel. Je parlerai ensuite du cas des bosons, de la condensation de Bose-Einstein, des théories de champ moyen et de l'équation de base de ce problème qui est l'équation de Gross-Pitayevsky. Et je dirai ensuite quelques mots très brefs sur les gaz de Fermi dégénérés. Et dans le cours suivant, 11h, la moitié du cours suivant sera consacrée à une revue très brève des résultats essentiels. Donc je commence par des généralités, et d'abord des généralités sur les bosons et les fermions. Les fermions sont des particules de spin entier, comme l'électron, le proton, le neutron, et nous savons que 2 fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique, c'est le fameux principe de Pauli. Les bosons, eux, sont des particules de spin entier, par exemple le photon, le méson, et à la différence des fermions, les bosons aiment s'agglutiner dans le même état quantique. Si on considère un système composite comme un atome, et si on étudie des domaines d'énergie où l'atome conserve son intégralité, on peut le considérer globalement comme un boson ou comme un fermion. C'est un boson s'il contient un nombre pair de fermions, comme l'hydrogène, un électron, un proton, l'hélium 4, le lithium 7, le sodium 23, le rubidium 87, un fermion s'il contient un nombre impair de fermions, par exemple le deutérium, l'hélium 3, le lithium 6. Ce qui est agréable, c'est que quand on a deux isotopes, l'un boson, l'un fermion, on peut étudier sur la même espèce atomique des effets complètement différents. Alors, si on prend un gaz de boson dans un puits harmonique, avec une fréquence de vibration H bar oméga, on sait depuis les travaux d'Einstein, dans les années 20, qu'en dessous d'une température critique, Tc donnée par cette expression, KBTc égale H bar oméga, l'écart entre niveau d'énergie qui multiplie un coefficient numérique de l'ordre de 1, n à la puissance 1 tiers, les bosons s'accumulent progressivement dans l'état fondamental du piège. Et quand T est plus petit que Tc, tous les bosons se trouvent dans l'état fondamental du piège, c'est ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Les fermions, eux, au contraire, lorsqu'on les met dans un piège harmonique de ce type, ils occupent l'un après l'autre les divers niveaux du puits jusqu'à une énergie maximale qui est l'énergie de Fermi. Ceci est à très basse température. Le système est dans un régime de dégénérescence quantique quand la température du système est plus petite que la température Ts donnée par KBTF égale Fermi et quand on calcule la température à laquelle tous les niveaux occupent donc cette énergie maximum, on trouve quelque chose qui est très voisin de cette formule, c'est juste le coefficient numérique en face qui n'est pas le même. Alors, la condensation de Bose-Einstein, vous voyez d'abord, première remarque très importante, si je reprends l'expression de la température critique, KBTC égale 0,94 H bar oméga N à la puissance 1 tiers, si N est très grand, par exemple 1 million, ça fait N puissance 1 tiers 100, on voit très bien que KBTC est très très grand devant H bar oméga. Donc attention, la condensation de Bose-Einstein n'est pas un effet thermique trivial qui apparaîtrait quand la température, l'énergie thermique KT, est plus petite que l'écart qui sépare le niveau fondamental du premier niveau excité. Quand la condensation apparaît, KT est beaucoup plus grand que H bar oméga. Donc c'est la condensation de Bose-Einstein est une conséquence de la statistique de Bose-Einstein. Alors que nous dit cette statistique ? Elle nous dit que le nombre d'occupations n lambda d'un niveau lambda d'énergie epsilon lambda vaut n lambda égale 1 sur exponentielle bêta epsilon lambda moins mu moins 1, où bêta est égal à 1 sur kt, kbt, et mu le potentiel chimique. Il est très commode dans ce problème d'introduire ce qu'on appelle la fugacité, qui est reliée au potentiel chimique par l'expression z égale exponentielle plus bêta mu. Alors z est forcément positif puisque c'est une exponentielle d'un nombre qui est ici. Et avec Z, on peut réécrire N lambda sous la forme Z sur E puissance bêta epsilon lambda moins Z, ce qui montre que comme N lambda est positif, Z doit être plus petit que 1, puisque cette quantité est plus grande que 1. Donc Z varie entre 0 et 1. Évidemment, la limite classique est obtenue quand Z est tout petit, auquel cas on peut négliger ce terme devant celui-là, et n lambda est égal à z exponentielle moins bêta epsilon lambda, on retrouve la statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors, à partir de cette formule, on peut calculer facilement pour un gaz parfait la population totale de l'état fondamental et la population totale des états excités. On peut écrire n égale n0 plus n excité, où n0 c'est z sur 1 moins z, je signale que je prends l'énergie minimum égal à 0, je prends l'énergie minimum comme 0 d'énergie, donc exponentielle bêta epsilon 0 est égal à 1, et la population totale des états excités s'écrit somme sur lambda différente 0 de n lambda, c'est-à-dire somme sur lambda différente 0, g lambda z sur exponentielle bêta epsilon lambda moins n, où g lambda est la dégénérescence du niveau lambda. Alors, si je prends cette formule, comme z varie entre 0 et 1, on peut majorer le numérateur par 1 et on peut minorer le dénominateur par exponentielle bêta epsilon n moins 1, de sorte que chacune de ces populations est inférieure à cette quantité-là. Et si je prends la somme de toutes ces quantités-là, je trouve que n excité, la population de tous les états excités, est plus petite qu'une certaine borne supérieure, n saturation, où j'ai majoré chacun des termes ici par cette valeur, qui est donné par sigma n différent de 0 de gn 1 sur exponentielle bêta epsilon n moins 1. Alors ce qui est important, c'est qu'à 3 dimensions, cette somme est finie, ce qui n'est pas le cas à 2 dimensions, à 1 dimension, à 3 dimensions, cette somme est finie, on peut l'évaluer soit numériquement, soit en remplaçant cette somme discrète par une intégrale, Et on trouve que N saturation est de l'ordre de 1.2 KBT sur H bar oméga au cube. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut comprendre le phénomène de condensation. Pour T suffisamment grand, N saturation qui varie comme T3 est très grand et les populations des niveaux excités sont très loin de leur valeur de saturation. On a donc Z très petit devant 1 et la statistique se confond avec la statistique de Boltzmann. Alors, à N fixé, diminuons la température jusqu'à atteindre une valeur TC telle que la N saturation pour T égale TC est égale à 1,2 KBTC sur H bar oméga au cube égale N, où N est le nombre total d'atomes dont on dispose. À ce moment-là, si on diminue T en dessous de TC, comme T varie comme T3, la population saturée des états excités devient plus petite que N. Alors on trouve un phénomène étrange, même saturée, la population globale de tous les états excités ne suffit plus à accommoder le nombre total d'atomes dont on dispose. On n'arrive pas à les caser dans les états excités, donc l'excédent de population N-N saturation de T se retrouve nécessairement condensé dans l'état fondamental dont la population devient une proportion croissante de N au fur et à mesure que T décroît. Alors on peut calculer facilement la proportion d'atomes condensés. En effet, au voisinage de TC et pour T plus petit que TC, si on sépare la contribution de l'état fondamental de la contribution des états excités qui sont saturés, on obtient cette formule. Or, par définition même de TC, N est égal à N saturation pour T égale TC. Et comme N saturation de T varie comme T3, N saturation de T qui est ici, et N saturation de TC, T sur TC au cube, et en utilisant cette équation, c'est N, T sur TC au cube, et on en déduit que N égale N0 plus N, T sur TC au cube, et donc que N0 sur N, la proportion d'atomes condensés, est égale à 1 moins T sur TC au cube. Et on obtient cette courbe bien connue, qui montre que quand on diminue la température, à partir d'une certaine température T égale TC, l'état fondamental se remplit et devient accommode toute la population quand on tend vers zéro. Alors, j'ai expliqué ici la condensation de Bose-Einstein dans un puits harmonique, alors que dans les ouvrages de mécanique statistique, elle est en général expliquée dans une boîte, avec des conditions limites périodiques, et on se pose aussi le problème de la limite thermodynamique. Mais comme toutes les expériences sont faites dans un puits, il est peut-être plus judicieux ici de parler de la condensation dans un puits harmonique. Et ce qui est intéressant dans un puits harmonique, c'est qu'il y a une signature particulièrement claire de la condensation, c'est que la distribution spatiale des bosons est bimodale. Elle a la forme d'un pic étroit qui émerge au-dessus d'un fond large, d'un piédestal large. Le pic étroit est la contribution des atomes condensés, qui sont tous dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, qui a une largeur petite. Et le piédestal large, c'est la contribution des atomes non condensés, qui sont dans des états excités de l'oscillateur harmonique, avec des fonctions d'onde beaucoup plus larges. Donc on a une distribution bimodale, et qui est donc facile à identifier expérimentalement. Alors que dans une boîte, la condensation s'effectue uniquement dans l'espace des impulsions. Alors, j'ai donné ici la méthode traditionnelle de présentation de la condensation de Bose-Einstein. Il est important de souligner qu'elle a aussi une interprétation ondulatoire très claire, et qui est la suivante. C'est que à la température critique TC, on a une situation où la longueur d'onde de De Broglie thermique des atomes, qui augmente bien sûr quand la température diminue, devient de l'ordre de la distance moyenne entre atomes. De manière plus précise, on peut montrer que la densité au centre du piège, N0, pour T égale TC, que multiplie la longueur d'onde de De Broglie pour T égale TC au cube, où la définition de lambda De Broglie est donnée par cette formule, racine carrée de pi h bar 2 sur 2m kb TC, eh bien, le produit de N0 par lambda De Broglie au cube est égal à un nombre 2.612. Ça veut dire que le nombre d'atomes qu'il y a dans un volume de l'ordre de la longueur d'onde de De Broglie est de l'ordre de 1, ça veut dire que la distance moyenne entre deux atomes est de l'ordre de la longueur d'onde de De Broglie. Ça veut dire que les paquets d'ondes associés aux divers atomes commencent à se recouvrir et à interférer, et donc on met le lien entre le phénomène de condensation et un phénomène d'interférence quantique entre les ondes qui sont associées aux divers atomes. Je signale que la même relation entre N0 et lambda De Broglie demeure valable pour des bosons dans une boîte. N0 est alors la densité spatiale qui est uniforme dans ce cas-là. Alors, je reprends ici un cliché de Wolfgang Ketterle qui visualise un petit peu plus clairement ce que je viens de dire. Quand on est très au-dessus de TC, les ondes associées aux différents atomes, les paquets d'ondes sont tellement petits qui joue peu d'importance et on peut considérer les atomes comme des petites boules de billard. Une description classique est tout à fait satisfaisante. Par contre, quand on diminue la température, on arrive au-dessus de TC, proche de TC, les paquets d'ondes deviennent visibles, mais ils ne se recouvrent pas encore. Quand on arrive à T égale TC, les paquets d'ondes se recouvrent et la population de l'état fondamental, la fonction d'onde de l'état fondamental, devient peuplée de manière appréciable. Enfin, quand T est très petit devant TC, tous les atomes se trouvent dans l'état fondamental. On a donc à ce moment-là un nombre macroscopique d'atomes, dans les expériences de l'ordre du million, qui sont tous dans la même fonction d'onde. C'est pour ça qu'on parle de fonction d'onde macroscopique, d'onde macroscopique. Alors, je suis maintenant en mesure d'introduire un certain nombre de longueurs caractéristiques dans le problème qui vont être utiles pour discuter les divers régimes qui peuvent apparaître. Il y a trois longueurs caractéristiques. Il y a d'abord R0, la portée du potentiel d'interaction entre deux atomes, V de R, typiquement de l'ordre de quelques angstroms. Il y a petit d, la distance moyenne entre deux atomes, qui est n à la puissance moins 1 tiers, où n est la densité spatiale. Et lambda de Broglie, la longueur d'onde de Broglie thermique, qui est donnée par racine carrée de pi h bar 2 sur 2m kbt. Alors, un premier régime, c'est quand aussi bien R0, la portée du potentiel, que d, qui est en général beaucoup plus grand que R0 dans un gaz, hein, sont tous les deux grands devant lambda de Broglie. Alors là, on a un régime complètement classique. Le gaz n'est pas dégénéré puisque lambda d est beaucoup plus grand que lambda de Broglie et on peut faire des paquets d'ondes dont la dimension est très petite devant la portée du potentiel d'interaction et on peut avoir l'image d'une particule classique qui évolue dans le potentiel interatomique. Donc aussi bien les collisions que les populations d'équilibre peuvent être décrites classiquement. Deuxième régime maintenant, lambda de Broglie est grand devant R0 mais petit devant d. À ce moment-là, les populations d'équilibre sont toujours données par la statistique de Maxwell-Boltzmann, puisque le gaz n'est pas dégénéré. Lambda de Broglie est plus petit que d. Mais maintenant, la longueur d'onde de Broglie est grande devant la portée du potentiel d'interaction, et la collision doit être décrite quantiquement. Et en particulier, nous allons voir que, à ce moment-là, les propriétés de transport qui dépendent des collisions sont modifiées par la statistique. On a donc un gaz classique avec des propriétés de transport quantiques. Enfin, troisième, dernier régime, à la fois D et lambda de Broglie sont grands devant R0, à ce moment-là, le gaz est dégénéré, puisque lambda de Broglie est grand devant D, et les collisions ne peuvent toujours pas être décrites classiquement, puisque R0 est plus petit que lambda de Broglie. Et dans ce cas, j'insiste aussi sur le fait, comme R0 reste toujours petit devant D, car je me limite aujourd'hui à des études de gaz, de systèmes gazeux où la distance entre atomes est grande devant la portée du potentiel d'interaction. Alors maintenant, je crois qu'on peut faire un bref historique de ce type de recherche. Et d'abord, je voudrais parler du transport quantique dans un gaz de fermion polarisé. Par pompage optique, il est possible de polariser les atomes et de rendre leur spin parallèle. En particulier, il est possible de polariser, comme je l'ai expliqué dans le cours 2 de cette année, il est possible de polariser des atomes d'hélium 3. Qui, dans l'état fondamental, ont un spin 1,5. À ce moment-là, nous savons que quand deux atomes sont polarisés, deux fermions sont polarisés, ils ne peuvent pas être au même point de l'espace. Le principe de Pauli leur interdit. Donc, deux fermions polarisés ne peuvent pas s'approcher l'un de l'autre. En termes plus savants, deux fermions identiques polarisés ne peuvent pas entrer en collision dans l'onde S. Parce que dans l'onde S, la probabilité de présence à l'origine n'est pas nulle. Donc, deux fermions polarisés ne peuvent entrer en collision que dans l'onde P, L égale 1, et dans cette onde P, leur distance minimale est de l'ordre de lambda de Broglie. Le paramètre d'impact est supérieur à lambda de Broglie. Donc si lambda de Broglie est plus grand que R0, ça veut dire à ce moment-là que les atomes ne ressentent plus leur interaction à cause du principe de Pauli. Ils passent trop loin de l'un de l'autre pour sentir leur interaction. Donc tout se passe à ce moment-là comme si le gaz était parfait. C'est un effet induit par la statistique quantique. Il y a donc des modifications des propriétés de transport, comme les propriétés de transport dépendent des collisions et la conductivité thermique change, la viscosité thermique change. Il y a des modes de propagation nouveaux qui apparaissent, qu'on appelle les ondes de spin, qui sont liées à la rotation de spin au cours d'une collision due au principe de Pauli. Alors, tous ces effets ont été étudiés en détail donc, au laboratoire par Claire Lullier et Franck Laloé dans une série d'articles extrêmement importants, qui ont réellement ouvert ce domaine de recherche, et à la suite de ces travaux, une série de colloques, SPOCS, a été démarré, Spin Polarized Quantum Systems, qui se continue aujourd'hui sous la forme d'une conférence biannuelle, tous les deux ans, pardon, sur la condensation de bosons-fermions. Mais c'est vraiment à cette époque qu'on a commencé à s'intéresser à des effets quantiques dans des gaz. Mais ces effets quantiques ne sont pas des effets de dégénérescence, ce sont des effets de transport. Alors, je donne juste un exemple ici. L'atome qui a été étudié, c'est l'atome d'hélium-3 polarisé. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il a une faible masse, donc la longueur d'onde de Broglie est élevée. On peut le refroidir de manière cryogénique. Et je donne un exemple de résultat expérimental ici, qui est la modification de la conductivité thermique d'un gaz de hélium-3 qu'on le polarise. Une expérience faite par Michel Leduc, Pierre-Jean Haché, David Beck, Jean-Daniel Geneviève Tassevin, Franck Lallouis en 87. On a donc un cryostat, un gaz d'hélium-3 qui est pompé optiquement dans la partie supérieure. Les atomes d'hélium-3 diffusent et vont dans cette cellule qui est à basse température. On chauffe le bas de la cellule et avec deux sondes thermiques, on mesure le gradient de température entre le bas de la cellule et le haut de la cellule. Et voici le gradient de température, la différence de température en fonction du temps. Quand l'hélium est polarisé, quand on applique une impulsion pi sur 2 de résonance magnétique qui le dépolarise, on s'aperçoit que quand le gaz est dépolarisé, la différence de température est plus grande parce que les atomes mettent plus de temps, comme ils rentrent en collision à ce moment-là, pour aller d'une paroi à l'autre et la conductivité thermique a diminué. Alors que quand il est polarisé, les atomes vont plus rapidement et les températures s'équilibrent plus facilement. Je passe maintenant au troisième régime, qui est le régime entièrement quantique, et la recherche d'effet de dégénérescence quantique sur un système gazeux. Et je voudrais d'abord faire un bref historique, parce que ça a été une aventure passionnante que ce domaine de recherche. Pourquoi d'abord est-ce un défi? Parce que quand on regarde la condition de condensation que j'ai donnée tout à l'heure, n lambda de Broglie au cube égale 2,612, on s'aperçoit que pour les valeurs de D, la distance entre atomes correspondant à un gaz, la température T requise pour réaliser lambda de Broglie de l'ordre de D est si basse que l'état d'équilibre du gaz ne peut pas être gazeux. C'est forcément un liquide ou un solide. Donc la condensation de Bose-Einstein ne peut pas se produire pour un gaz. Les températures qui sont requises pour un gaz sont telles que le système, à ce moment-là, son état d'équilibre, c'est un solide ou un liquide. C'est pourquoi, pendant très longtemps, on a considéré que le phénomène de condensation de Bose-Einstein pour un gaz parfait, prédit par Einstein en 1924, était purement académique. C'était un exercice de style. Certes, en 1938, London suggéra que la transition superfluide de l'hélium-4 à 2,17 Kelvin pouvait être liée à une condensation de Bose-Einstein, en appliquant la formule d'Einstein. Mais la formule d'Einstein est relative à un gaz parfait, et l'hélium liquide est loin d'être un gaz parfait. La distance entre atomes est de l'ordre de l'angström, et on ne peut absolument pas ignorer les interactions. Donc le phénomène statistique est passablement perturbé par les interactions. Et je vous renvoie, si vous êtes intéressé, à la conférence de Sébastien Balibar au séminaire Poincaré, donc donnée en mars dernier, où il passe un peu en revue l'évolution de ses discussions à l'époque avec London, Tisa et d'autres grands physiciens. Puis, au milieu des années 70, il y a eu un renouveau considérable d'intérêt pour ces méthodes. Et ce renouveau a été stimulé par un article de Voilé et Nosanov, paru en 76. Je me souviens qu'à cette époque, je faisais un séjour sabbatique à MIT, et je me souviens de l'excitation qu'avait saisi Dan Kleppner, un de mes collègues et amis de MIT, à la lecture de cet article, parce que Dan Kleppner est un grand spécialiste de l'hydrogène. Alors l'article de Stoilé et Nosanov disait que l'hydrogène polarisé, par exemple par un champ magnétique très intense, devait rester gazeux à toute température, y compris au 0 degré. Donc voilà un gaz qui, lui, reste gazeux même au 0 degré absolu, pourvu qu'il soit polarisé. Et Nosanov et Stoilé calculaient la température critique et ils trouvaient qu'elle était accessible par des méthodes cryogéniques. Alors ça, immédiatement, ça, évidemment, attirait l'attention des scientifiques, parce que l'hydrogène est un système extrêmement séduisant. D'abord, les interactions sont faibles dans un gaz, bien sûr, elles sont très bien connues, on peut les calculer de manière précise. L'hydrogène est un système sur lequel on peut tout calculer. D'autre part, si on observe la condensation de Bose-Einstein sur un gaz, c'est une grande première, parce que la superfluidité associée à la condensation de Bose-Einstein n'avait jamais été observée auparavant sur un gaz. Et puis il y avait aussi des retombées technologiques possibles. Vous savez qu'il y a le maser à hydrogène qui est une horloge extrêmement importante, et avoir un maser à hydrogène avec des parois recouvertes d'enduit cryogénique est extrêmement séduisant. Donc il y a eu à ce moment-là un démarrage de nombreuses recherches, tant théoriques qu'expérimentales sur l'hydrogène polarisé, à MIT, dans l'équipe de Dan Kleppner et Tom Kretak, en Hollande, puis après Harvard, dans l'équipe de Silvera, Ike Silvera et Hugh Walraven, à Yuri Kagan à Moscou, il y a toute une série d'équipes qui se sont lancées dans l'étude de l'hydrogène à très basse température, avec l'espoir d'observer la condensation. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'hydrogène est avantageux, il a la masse la plus faible possible de tous les atomes, lambda de Broglie varie comme 1 sur racine de m, il reste gazeux à toute température, il est entièrement calculable, et la structure hyperfine dans l'état fondamental est telle qu'à un champ magnétique raisonnable, on peut complètement le polariser dans l'état d'énergie le plus bas. Mais il y a des difficultés considérables qui apparaissent. D'abord, la raie de résonance de l'hydrogène est dans l'ultraviolet, et les sources laser assez fréquentes ne sont pas aisées à réaliser. Les limites Doppler et de recul de l'hydrogène pour le refroidissement laser sont élevées relativement, 4000 Kelvin et 400 microkelvin, comparé aux alcalins où ils sont plutôt de l'ordre 1000 microkelvin. La détection optique des atomes d'hydrogène n'est pas facile à cause de cette difficulté de réaliser des sources dans l'ultraviolet. Et surtout, il faut qu'on ait un gaz d'hydrogène polarisé, il faut absolument éviter tout basculement de spin, parce qu'à ce moment-là, des molécules se forment et le système explose. Donc il faut absolument garder le système polarisé, il faut éviter toute collision à trois corps en phase gazeuse ou sur la phase absorbée sur les parois, qui diminuerait bien sûr la densité d'hydrogène polarisé et d'arriver à des situations catastrophiques. Alors, les gens qui travaillent dans ce domaine ont suivi deux routes. La première route qu'ils ont suivie, la température étant fixée par le cryostat, à dilution, à une température de l'ordre de 0,1 Kelvin, la seule façon d'agir, c'est d'augmenter la densité, pour arriver à n lambda de Broglie cube égale 2.612. Donc, augmentation de la pression à température constante. Le drame, c'est que quand on augmente la pression, les collisions à trois corps deviennent importantes, en volume et en surface, et il n'a pas été possible d'atteindre la densité critique. Les pertes sont trop importantes et empêchent d'arriver à une valeur de N suffisamment élevée. À ce moment-là, les gens ont changé de stratégie. Ils ont dit, au lieu de travailler à température constante et d'augmenter la densité, nous allons travailler à pression constante faible pour y diminuer les pertes et diminuer la température. Alors là, forcément, pour la diminuer, comme on n'a pas le refroidissement laser pour l'hydrogène, ils ont inventé une nouvelle méthode, et ça a été extrêmement astucieux, et ça a été une étape importante pour toute la suite de ce domaine de recherche. Il y a eu l'invention du refroidissement évaporatif, qui permet, en utilisant des collisions qui éjectent hors du puits les atomes les plus énergiques, de permettre à ceux qui restent dans le piège, qui sont moins énergiques, de se rethermaliser et de faire diminuer la température de l'ensemble. Cette proposition a été faite par Hess, en 86, elle s'est révélée efficace. Et parallèlement à ce progrès, au lieu, bien sûr, s'il faut éviter les collisions en parois, tout contact avec les parois a été évité en capturant, en piégeant les atomes dans un piège magnétique. Donc les atomes d'hydrogène sont dans un piège magnétique, isolés des parois, à une densité suffisamment faible pour que les collisions en trois corps ne soient pas importantes, et on diminue la température par refroidissement évaporatif. C'est en 86, juste les premiers pièces magnétiques venaient d'être réalisées dans le laboratoire de Bill Phillips à Gaithersburg. Alors, pour à la fois la discussion du refroidissement évaporatif et des pièces magnétiques, je vous renvoie au cours 96-97, où ces deux problèmes sont étudiés en très grand détail. Alors, je rappelle très brièvement le refroidissement évaporatif. On a un piège, avec, je prends deux atomes d'énergie E1 et E2, ces deux atomes qui sont piégés dans ce puits de potentiel de profondeur U0 subissent une collision, et à l'issue de la collision, ils ont une énergie E3 et E4, avec bien sûr E1 plus E2 égale E3 plus E4 par conservation de l'énergie. Si E4 est supérieur à U0, l'atome s'échappe, l'atome E3 qui reste a une énergie beaucoup plus basse, et en se rethermalisant avec les autres atomes, la température de l'ensemble diminue. On perd des atomes, mais la température de l'ensemble diminue, et la perte qu'on a sur N0 est moins importante que le gain qu'on a sur lambda de Broglie, et on augmente la densité dans l'espace des phases. Alors, évidemment, si je reviens en arrière, vous voyez qu'au fur et à mesure que la température décroît, les atomes vont s'accumuler au fond du piège, et à ce moment-là, la probabilité d'en trouver deux qui se cognent et que l'un d'eux acquiert l'énergie et capte suffisante pour s'échapper du piège devient très petite. Et à ce moment-là, l'évaporation, la vitesse d'évaporation diminue de manière dramatique. D'où l'idée qu'au fur et à mesure que la température diminue, il faut aussi diminuer la profondeur du piège pour permettre aux atomes de continuer à sortir du piège sous l'effet des collisions. Alors là, il y a une idée extrêmement astucieuse de Dave Pritchard, qui est la suivante, qui est ce qu'on appelle l'évaporation forcée. J'ai dessiné ici le cas d'un niveau atomique de moment cinétique 1, avec trois sous-niveaux Zeeman, plus 1, 0, moins 1, dans un piège magnétique. Alors, le niveau moins 1, par exemple, est piégeant. Le niveau 0, qui n'a pas de magnétisme, n'est pas piégeant. Et le niveau plus 1, qui a un magnétisme opposé à moins 1, lui, est anti-piégeant. Alors, les atomes qui sont dans ce niveau-là oscillent dans le piège. Et vous voyez que si on applique un champ de radiofréquence de fréquence nue, quand l'atome arrive à cette altitude, il subit une transition de radiofréquence qui l'amène ici, puis là, et il s'échappe du piège. Donc, en ajoutant un champ de fréquence bien choisi, on contrôle la profondeur du piège. Et au fur et à mesure que l'évaporation se poursuit, on diminue nu de manière à diminuer la profondeur U0 du piège et de manière à maintenir une évaporation qui reste efficace même à très basse température. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'évaporation forcée. On appelle ça un couteau radiofréquence et c'est une méthode maintenant qui est parfaitement au point et qui est utilisée dans de nombreux laboratoires. Alors, au courant des années 90, donc les gens de l'hydrogène se rapprochaient petit à petit du seuil de condensation sans y parvenir. Mais parallèlement à ces études, les travaux sur le refroidissement des alcalins et le piégeage des alcalins s'étaient développés de manière considérable et des gens cherchaient aussi à observer le phénomène sur les alcalins. Alors, les alcalins ont des avantages. Ils sont beaucoup plus faciles à refroidir et à piéger avec des lasers. On atteint des températures facilement de l'ordre de quelques microkelvin. Et surtout, ils sont faciles à détecter optiquement. Le ray de résonance tombe dans le visible. Il y a des lasers à diode, des lasers à colorant qui permettent de le faire. Il y a des difficultés. D'abord, pour les alcalins, le condensat de Bose-Einstein n'est pas l'état d'équilibre thermodynamique. Comme je le disais tout à l'heure, le vrai état d'équilibre thermodynamique, à ce moment-là, c'est un solide. Mais, si on a un gaz, et si les collisions, si on a un gaz, pour former des molécules à partir de ce gaz, puis du solide, il faut que deux atomes entrant en collision puissent former un état lié. Il faut à ce moment-là, donc, qu'un troisième partenaire évacue l'excès d'énergie. Deux particules qui rentrent en collision ne peuvent pas tomber dans un état lié. Il faut qu'elles évacuent l'énergie correspondante. Donc, il faut des collisions à trois corps. Et si les collisions à trois corps sont suffisamment basses, certes, le condensat de Bose-Einstein n'est pas l'état d'équilibre, mais ça va être un état métastable qui va vivre suffisamment longtemps pour qu'on puisse l'étudier. Il faut aussi que, ne pas oublier, qu'il faut que les collisions élastiques à deux corps, elles, demeurent importantes pour qu'on puisse évaporer le gaz et diminuer encore la température. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun groupe n'a été capable d'atteindre le seuil de condensation de Bose-Einstein uniquement avec le refroidissement laser. Il a fallu toujours compléter le refroidissement laser par du refroidissement évaporatif. Donc, les gens se sont débarrassés à ce moment-là du complexe qui les empêchait de penser à la possibilité d'obtenir un condensat de Bose-Einstein parce que ce n'était pas l'état d'équilibre. C'est un état métastable. Alors, le problème, c'est qu'on a deux contraintes. Il faut qu'il dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse l'étudier, il faut en plus que les collisions à deux corps soient suffisamment rapides pour la thermalisation. Donc ça, c'est une idée qui est arrivée petit à petit, et ce sont finalement les alcalins qui ont été les premiers à être condensés en 1995 à Boulder et MIT. Dans l'équipe de Eric Cornell et Carl Wyman à Boulder, dans l'équipe de Wolfgang Ketterle à MIT. Alors, je dessine ici, j'aime bien ce schéma parce qu'il montre un petit peu les chemins qui ont été suivis. Voilà la première stratégie de l'hydrogène. À température constante, ça c'est, on met en ordonnée la longueur d'onde la longueur d'onde de De Broglie, c'est-à-dire la température, en ordonnée la densité spatiale. Alors, la première stratégie suivie par les gens de l'hydrogène, c'était à température constante d'augmenter la densité. On ne s'arrête là. On ne peut pas arriver plus loin. Puis, à pression constante, plus ou moins constante, de diminuer la température, donc d'augmenter la longueur d'onde de Broglie par un refroidissement évaporatif. Ils ont fait ça. En 1995, ils n'étaient pas encore arrivés au seuil, qui est cette courbe-là, c'est la courbe correspondant à n lambda de Broglie cube égale 2.612. De ce côté, c'est la condensation. Ici, c'est le système non condensé. Les alcalins, eux, vous voyez qu'on parle de densité dans l'espace des phases extrêmement petite, hein, soit dans une vapeur, soit dans un jet atomique. Et ça, en violet, ce sont les chemins suivis par refroidissement laser. On arrive à ce point-là. Et la dernière étape, c'est le refroidissement évaporatif, qui ont permis, donc, les deux premiers alcalins à être condensés ont été le rubidium à Boulder et le sodium à MIT. Alors, vous allez me dire comment on fait maintenant pour le voir, le condensat. La technique est la suivante. On prend un faisceau laser parallèle. Le condensat est ici dans la cellule et dans le piège. Et on regarde l'ombre que produit ce nuage d'atomes froids sur le faisceau laser, l'absorption. On mesure une absorption à deux dimensions. On mesure l'épaisseur optique totale en fonction de XY, en prenant XY dans ce plan perpendiculaire au plan de propagation du faisceau laser. Et au moyen d'une lentille et d'un écran CCD, on fait l'image de l'ombre introduite par le nuage d'atomes froids sur le faisceau laser. Voilà les deux premiers exemples de condensat publiés en 1995 au GILA et au MIT. Ici, c'est du rubidium. Les trois clichés ici donc, représentent un cliché à deux dimensions en fausse couleur. Ici, pour une température au-dessus du seuil critique, où on voit le nuage thermique. Quand on arrive au voisinage de TC, on voit le fond thermique et le condensat qui pousse sur le fond thermique. Et quand on est très en dessous de TC, on voit uniquement le condensat. De même ici, pour T plus grand TC, T plus petit que TC, T très petit devant TC, sur le sodium, on voit encore plus clairement la structure bimodale du nuage d'atomes froids et on voit ici le condensat pur. Ici, quand on est à ce niveau-là, on a à peu près 1 million d'atomes qui sont tous dans l'état fondamental du piège, de dimensions de l'ordre de quelques dizaines de microns, qu'on peut pratiquement voir à l'œil nu. Donc on a un état quantique macroscopique. Alors depuis cette époque, plusieurs condensats ont été réalisés. Donc ça c'est les deux premiers, puis après le lithium 6. Finalement les gens de l'hydrogène ont pu condenser l'hydrogène en 1998. Puis il y a eu à Paris, donc à Orsay, dans notre équipe au LKB, l'hélium 4 métastable. Alors ça c'était le premier condensat où les atomes étaient condensés non pas dans l'état électronique fondamental, mais dans un état métastable situé à 20 électronvolts au-dessus du niveau fondamental, puis le potassium, puis le césium, et très récemment le ytterbium à Kyoto. Et je vais dire tout à l'heure, je vous montre tout à l'heure, que depuis les trois semaines dernières, après que j'ai préparé ces transparents pour les faire tirer, trois condensats moléculaires ont été observés. Donc j'en parlerai dans un petit moment. Donc vous voyez que le champ est littéralement en train d'exploser dans toutes les directions. Alors, après cette historique, donc, je voudrais maintenant introduire quelques notions de base sur les interactions. En effet, le gaz de boson piégé n'est pas un gaz parfait. Les atomes interagissent, ils interagissent lors de collisions, et on ne peut pas ignorer ces effets pour étudier le phénomène de condensation. Il faut absolument en tenir compte. Mais le gaz est dilué parce que n, R0 cube, est très petit devant 1, la distance entre atomes est très petite devant la portée est très grande, on va la portée des interactions. Néanmoins, si le gaz est suffisamment dilué, on peut, dans une première approximation, négliger les collisions entre corps. Et je vais supposer ici, dans cet exposé, bien que pratiquement c'est important également de l'étudier, je vais supposer que les collisions inélastiques à deux corps sont négligeables devant les collisions élastiques. Alors, ce qui est intéressant dans ce domaine de recherche, c'est que nous allons voir que la description des collisions à très basse température peut être faite entièrement au moyen d'un seul paramètre. Pourquoi? D'abord parce que les atomes passent la plus grande partie de leur temps éloignés les uns des autres, donc leur interaction dépend avant tout de la forme asymptotique des états stationnaires de collision, qu'on peut écrire sous la forme psi de R de l'ordre de puissance IKZ, l'onde plane incidente plus F de θ, l'amplitude de diffusion dans la direction θ et puissance IKR sur R. Mais comme on a très basse température et que R0 est petit devant lambda de Brun, car R0 est plus petit que 1, à ce moment-là, quand on fait un développement en onde partielle de l'amplitude de diffusion, on s'aperçoit que la contribution essentielle vient de l'onde S, puisque comme je vous l'ai indiqué, dans l'onde P, les atomes passent l'un de l'autre à une distance de l'ordre supérieur à lambda de Brun. C'est uniquement dans l'onde S qu'ils peuvent s'approcher suffisamment pour ressentir leur interaction. À ce moment-là, dans le développement en onde partielle de F de θ, seule l'onde S intervient, et l'onde F est isotrope, et il y a un seul nombre qui intervient, c'est F0, qui ne dépend plus de θ. À ce moment-là, quand on prend la théorie des collisions, on montre que F0 peut être écrit sous la forme A sur 1 plus IK, moins A sur 1 plus IK, qui est de l'ordre de moins A si KA est plus petit que 1, où A est un nombre réel qu'on appelle la longueur de diffusion. Donc F0, c'est un seul nombre qu'on peut réexprimer en fonction d'un autre nombre qui est la longueur de diffusion. Donc toute la physique des collisions à basse température est contenue dans ce nombre réel qu'on appelle la longueur de diffusion. Quant à la fiction efficace, elle est égale à U. Elle est au carré de F0, et quand on fait le calcul exactement, qu'on tient compte du fait que les particules sont identiques, ce qui donne un 8π au lieu d'un 4π ici, 8π A2 sur 1 plus K2 A2, qui est de l'ordre de 8π A2 si K A plus petit que 1. Donc un seul paramètre, petit a, permet de caractériser les effets des interactions sur les propriétés physiques du condenseur. Alors, il est important de donner une interprétation graphique de ce paramètre. Alors, j'ai dessiné ici la forme d'un état stationnaire de diffusion, la fonction radiale. La fonction radiale, psi de R, dans l'onde S, s'écrit uk de R sur R, et pour R très grand de R0, quand les atomes sont suffisamment loin de l'autre pour qu'ils ne se sentent plus leur interaction, on a une onde libre qui est une sinusoïde. Alors, voilà uk de R à grande échelle. Et si on regarde ce qui se passe au voisinage de l'origine, quand les atomes interagissent, là, la fonction d'onde varie de manière plus compliquée. Mais quand elle devient une sinusoïde, le premier zéro de la sinusoïde a une abscisse qui est petit a. Donc la longueur de diffusion, c'est l'abscisse du premier zéro de la sinusoïde quand on fait tendre k vers zéro, quand on fait tendre l'énergie vers zéro. Donc on a une interprétation graphique, géométrique de petit a. Alors, je vous renvoie pour étudier tous ces problèmes au cours du collège de 98-99 et un exposé de très complet de Jean Dalibard dans cette école d'été de Varennes, 99. Alors, je pense que moi j'ai eu beaucoup de temps à comprendre ce point qui m'a beaucoup gêné, donc c'est pour ça que je vous le rappelle ici. Le signe de A, le potentiel V de R entre les deux atomes est toujours attractif. Mais nous allons voir que le signe de A permet de comprendre si, d'un point de vue plus global, les interactions effectives entre deux atomes sont attractives, répulsives ou nulles. Bon, alors, pour le comprendre, je crois que la manière que je me suis trouvée la plus simple est la suivante. En l'absence d'interaction, s'il n'y a pas du tout d'interaction, bien sûr, le spectre de la particule relative, parce que R, c'est la particule relative, c'est la distance entre les deux atomes qui entrent en collision, est celui d'une particule libre, et il est commode de discrétiser le spectre de cette particule libre en enfermant la particule dans une boîte sphérique de rayon R très grand. Et à ce moment-là, voilà la fonction d'onde radiale, elle s'annule en R, et puis comme c'est l'état fondamental, elle s'annule en zéro, donc on a une arche de sinusoïde, donc une longueur d'onde lambda sur 2 égale R, un K, un vecteur d'onde 2 pi sur lambda égale pi sur R, et une énergie, qui est purement cinétique ici, H bar 2 K2 sur 2 mu, ou K donné par cette expression. Supposez maintenant que la particule, toujours dans cette boîte, subit une interaction avec l'autre particule, et supposer que la longueur de diffusion A est positive. L'état fondamental, c'est toujours une sinusoïde ici, et vous voyez que le A, c'est le premier zéro, l'abscisse du premier zéro de cette sinusoïde. En dehors de cette région, l'énergie de l'état bleu, qui est ici, l'état, est purement cinétique. Il n'y a pas du tout d'interaction. Et cette énergie purement cinétique est entièrement déterminée par la longueur d'onde. La longueur d'onde ici a diminué par rapport à là. Donc, K a augmenté, K 2 pi sur lambda a augmenté, et E égale à K2 sur 2 mu a augmenté. Donc si la longueur d'onde, si la longueur de diffusion A est positive, l'état fondamental et les premiers états excités de la particule dans cette boîte sphérique vont augmenter. Donc l'interaction effective entre les particules est une répulsion. Les énergies ont augmenté. Par contre, si la longueur de diffusion est négative, voilà la sinusoïde ici, voilà son premier zéro ici, à ce moment-là, la longueur d'onde a augmenté, K a diminué, et l'énergie a diminué. Donc, suivant que A est positif ou négatif, l'interaction effective à grande distance entre les particules est soit répulsive, soit attractive. Et si A égale 0, l'interaction est nulle, on a un gaz parfait. Donc, le signe de l'interaction effective est entièrement lié au signe de A. Deuxième point important que je voudrais expliquer ici, regardons le cas maintenant où le potentiel V de R d'interaction entre les deux atomes a un état lié d'énergie de liaison est très petite. À ce moment-là, on peut montrer, hein, ce n'est pas le temps de le faire ici, mais on peut montrer que la longueur d'onde de diffusion est positive et très grande en valeur absolue. Donc, un étalier d'énergie très proche du seuil, un vrai étalier, c'est une longueur de diffusion très grande et positive. Si maintenant on diminue la profondeur du puits, progressivement, cet étalier va se rapprocher de zéro, et puis pour une certaine profondeur, qu'on l'a diminué au-delà de cette profondeur, il va passer dans le continuum. Donc l'étalier a disparu, il est passé dans le continuum, il a donné une sorte d'étalier virtuel, ce qu'on appelle une résonance de diffusion. L'amplitude de diffusion varie de manière résonante dans la partie positive, et à ce moment-là, A est négatif est très grand. Alors, quand A est très grand, il faut faire attention pour utiliser les expressions des sections efficaces totales et de l'amplitude de diffusion. À ce moment-là, il faut tenir compte du fait qu'on peut avoir KA pas négligeable alors que KR0 est tout petit. Alors, c'est très important ça, parce qu'il se trouve par exemple que le césium a un état de résonance de diffusion très proche de l'origine, donc des sections efficaces extrêmement importantes, l'amplitude de diffusion extrêmement importante, et que ceci a pendant très longtemps empêché la condensation du césium parce que les collisions inélastiques étaient aussi très importantes et empêchaient d'atteindre le seuil critique. Je voudrais maintenant parler d'un développement plus récent qui a été absolument décisif dans tout ce domaine de recherche et qu'on appelle la résonance de Feshbach. C'est la suivante. La particule relative incidente est une particule libre. C'est deux particules qui rentrent en collision. La particule incidente, son énergie appartient au spectre continu et positif. Donc, on a ce qu'on appelle un canal ouvert, que j'ai dessiné ici. Voilà le potentiel d'interaction entre les deux atomes. Et voilà un état d'énergie très proche du seuil, mais au-dessus du seuil. La particule est libre. Il peut se produire que cette énergie E d'un canal ouvert soit très proche de l'énergie d'un état lié dans un autre canal possible du système qu'on appelle un canal fermé parce que c'est un vrai état lié. La particule correspondante ici oscille entre deux positions extrêmes. Cet autre canal peut correspondre à une autre disposition des moments magnétiques des spins qui constituent l'atome et en variant le champ magnétique, on peut varier la position du canal fermé par rapport à celle du canal ouvert. Alors, on comprend à ce moment-là que si l'énergie E est très proche de l'énergie d'un état lié, la particule peut virtuellement, quand elle est dans cet état, et passer dans l'état lié, rester un certain temps, puis revenir dans l'état libre, et à ce moment-là, l'amplitude de diffusion va être modifiée de manière spectaculaire, de manière importante. Alors, ce qu'on montre, c'est que si l'énergie de l'état lié est très proche de E et inférieure à E, qui est cette situation, à ce moment-là, la longueur de diffusion A est très grande et positive. Si au contraire, l'énergie de l'état lié est très proche de E, mais supérieure à E, cette situation-là, à ce moment-là, la longueur de diffusion est négative et très grande en valeur absolue. Et si l'énergie de l'état lié coïncide avec l'énergie E, à ce moment-là, la longueur de diffusion est infinie. Donc on a une variation de la longueur de diffusion qui a la forme d'une hyperbole comme ça, avec une divergence quand les deux énergies coïncident. C'est parce qu'on a donc une dégénérescence accidentelle donc, entre le canal ouvert et un canal fermé. Et ceci est quelque chose de fantastique parce que ça donne aux expérimentateurs de ce domaine un bouton, et en tournant ce bouton, en tournant le champ magnétique, on varie à volonté l'interaction effective entre les particules. On peut passer d'une situation où l'interaction est attractive à une situation où l'interaction est répulsive, à volonté. Alors, dernier point que je voudrais dire pour cette description des interactions, c'est que dans les théories de champ moyen, et ce qu'on fait le plus souvent, à l'ordre le plus bas en V, qu'on appelle l'approximation de Born, il est beaucoup plus commode, plutôt que d'utiliser le vrai potentiel, qui est quelque chose de complexe et compliqué, on remplace le vrai potentiel par un potentiel fictif, un pseudo-potentiel, dont la propriété imposée est de conduire à la même longueur de diffusion que le potentiel réel, puisque toutes les propriétés physiques importantes dépendent de la longueur de diffusion. Et le potentiel qui est le plus populaire, c'est un potentiel en fonction delta, V pseudo égale G delta de R, qui n'est pas tellement irréaliste, puisque l'interaction est à très courte portée, comparée à la longueur d'onde de Brun, et la constante de couplage G est déterminée en imposant à ce potentiel de conduire à l'approximation de Born à la même longueur de diffusion que le vrai potentiel. Et quand on fait ça, on trouve que G est relié à A par cette formule, G égale 4 pi h bar 2 sur M, que multiplie petit a. G est proportionnel à A. On peut aller un peu plus loin, comme je l'ai expliqué dans le cours au Collège de France il y a quelques années, on peut prendre un potentiel plus précis qui permet d'aller au-delà de l'approximation de borne et qui revient à remplacer ce potentiel G delta de R par G delta de R D sur VR de R. Je n'entre pas là-dessus, c'est vraiment un point technique. Et maintenant, si vous voulez, une fois que j'ai introduit une manière simple de décrire l'effet des interactions au moyen de la longueur de diffusion, je passe maintenant à l'équation qui sert d'outil de base à tous les physiciens qui travaillent dans ce domaine, qui est l'équation de Gross-Pitayevsky, et qui est la suivante. Alors, l'idée est la suivante. La Hamiltonienne du problème, qu'il faudrait diagonaliser, c'est la Hamiltonienne de n particules, la somme des énergies cinétiques, la somme des énergies potentielles dans le potentiel de piégeage, puis plus la somme de toutes les paires d'interactions entre paires de particules. 1 demi, somme sur i, somme sur j différent de i, g delta de ri moins rj, en remplaçant le vrai potentiel par le pseudo-potentiel. Alors, diagonaliser un tel Hamiltonien, c'est très difficile, on n'y arrive pas de manière exacte. D'où la nécessité de recourir à des approximations. Et l'approximation du champ moyen consiste à raisonner de la manière suivante. On va essayer de trouver, de calculer l'état fondamental de manière variationnelle. On va prendre une famille variationnelle d'états où les n bosons sont tous dans le même état phi. D'accord ? Et on va se dire quel est le meilleur état phi qui se rapproche le plus de l'état fondamental, le vrai état fondamental de tout, de cet Hamiltonien. Donc on prend pour psi, phi de 1, que multiplie phi de 2, que multiplie phi de i, que multiplie phi de n, et on cherche le meilleur phi. À ce moment-là, ce qu'il faut, d'après la théorème des variations, c'est calculer la valeur moyenne de h, qui est une fonctionnelle de phi, et qui est la valeur moyenne de h dans l'état psi, divisée par la norme de psi. Qu'on fait ce calcul avec cet Hamiltonien, et qu'on cherche la valeur minimale de h, compte tenu de la contrainte que psi psi égale à 1, en utilisant le multiplicateur de Lagrange, on trouve que la meilleure fonction phi est satisfaite à cette équation, moins h bar sur 2 m, laplacien de phi, plus v extérieur de phi, plus n moins 1, g, phi de r au carré, phi de r, égale mu phi de r. Phi de r est normé, somme de v3r, phi de r carré égale 1, et mu est le potentiel chimique. Et cette équation rappelle beaucoup l'équation de Schrödinger, elle est non linéaire, puisque ce terme ici est en cube de phi de r, et elle a une signification physique très simple, elle exprime comment chaque particule, elle décrit le comportement quantique de chaque particule, soumise au potentiel extérieur, V extérieur, avec l'énergie cinétique décrite par ce terme, et ce terme-là décrit l'interaction avec les n-1 autres particules. Donc cette interaction décrit le champ moyen créé au niveau d'une particule par les n-1 autres particules. C'est pour ça qu'on appelle ça une théorie de champ moyen. Alors, c'est une équation non linéaire qui a fait l'objet de très nombreux travaux, numériques et analytiques, et qui a en plus l'avantage de rappeler beaucoup des équations d'optique dans un milieu non linéaire. Et c'est à l'origine de cette remarque que plusieurs nouvelles expériences ont été réalisées pour généraliser aux ondes de Debreuil les effets de l'optique non linéaire. Alors, en particulier, quand l'énergie cinétique est très petite, quand le condensat est très gros à cause de la répulsion entre atomes, à ce moment-là, la variation spatiale de la fonction d'onde devient de plus en plus faible, et ce terme-là devient de plus en plus petit, et à ce moment-là, une approximation consiste, pour des condensats très gros, répulsifs, à négliger ce terme. À ce moment-là, on a une équation algébrique qui permet de calculer φ de R, et c'est ce qu'on appelle la limite de Thomas-Fermi, qui est bien connue en physique atomique, donc à la limite des condensats gros, delta phi est négligé, et à ce moment-là, on trouve que φ de R au carré est donné, qui est n phi de r au carré, qui est la densité spatiale, est donnée par mu moins v extérieur de r sur g. C'est donc la forme du condensat, voilà, c'est un paraboloïde inversé. Et c'est une forme, effectivement, qui est constatée expérimentalement. On peut aussi écrire une équation de Gross-Pitayevsky dépendant du temps pour étudier les phénomènes dynamiques. Et on peut montrer par un calcul variationnel que la meilleure fonction phi de r et de t dépendant du temps est donnée par cette équation. On a remplacé mu phi de r de t par ih bar d phi de r de t sur dt. Cette équation a été très utile pour étudier toute une série de phénomènes, comme l'expansion balistique du condensat quand brusquement on coupe le potentiel de piégeage, Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on prend le condensat, quand on le met en mouvement de vibration forcée? Quels sont les modes propres de vibration du condensat? Quelles sont ses excitations élémentaires? Là aussi, je vous renvoie au cours 98-99 pour une discussion approfondie de ces équations. Il y a une autre technique pour calculer les excitations élémentaires du condensat, c'est de partir de l'équation de la Hamiltonienne en seconde quantification et d'introduire des approximations utilisant le fait que l'état fondamental, quand on est à température très basse, est beaucoup plus peuplé que les autres, ce qui permet de remplacer les opérateurs de création à zéro et d'annihilation à zéro et de création à zéro croix d'un boson dans l'état fondamental du piège par racine carrée de N0. À ce moment-là, on a une équation, un Hamiltonien quadratique qu'on peut dégénéraliser, et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de Bogodubov, et elle conduit à un spectre d'excitation élémentaire, oméga en fonction de k, qui diffère de celui d'une particule libre. Une particule libre, c'est une parabole, h bar k2 sur 2m, ici, que j'appelle oméga k0, et le spectre de Bogodubov, c'est h bar oméga k Bogodubov égale racine carrée de h bar oméga k0, h bar oméga k0 plus mu. C'est un spectre qui est linéaire au voisinage de l'origine, avec une pente c qui est donnée par la racine carrée du mu sur m, ou mu le potentiel chimique m la masse, et puis qui, pour les grandes valeurs de k, rejoint un spectre parabolique décalé de mu ici. Et le fait que ce spectre part linéairement et non pas quadratiquement est à l'origine d'un phénomène de superfluidité, tel qu'il a été expliqué la première fois par Landau. Si le spectre part linéairement, et à cause de sa courbure qui est dans ce sens-là, une particule sonde qui se déplace dans ce fluide avec une vitesse v plus petite que la pente ici, c'est, ne peut pas créer une excitation élémentaire dans le condensat, et par conséquent, elle se propage sans aucune viscosité. Enfin, autre forme équivalente de l'équation de Gross-Pitaïsky, qui est aussi extrêmement utile, on remplace la fonction d'onde phi par la racine carrée de la densité spatiale, n, que multiplie un facteur de phase, exponentielle ifr de t, donc n et s sont la densité spatiale et la phase de la fonction d'onde. À ce moment-là, quand on regarde l'équation de continuité pour la densité spatiale, on trouve que le gradient de la phase est relié à la vitesse. On a le champ de vitesse, c de r de t donné par cette formule-là. Et si on reporte cette expression dans l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps, et si on néglige un terme de pression quantique, lui aussi, qui est négligeable à la limite des densités élevées, on trouve pour n et v, le champ de densité et le champ de vitesse, deux équations qui sont écrites ici, que j'ai aussi étudiées en détail dans un cours précédent, et qui rappellent l'équation de l'hydrodynamique de superfluide. Et ces équations sont actuellement très utilisées pour étudier toute une série de comportements des condensats. Voilà donc essentiellement les outils théoriques qui sont utilisés, avec bien sûr des traitements plus élaborés, essayant d'aller au-delà de la théorie du champ moyen. Je voudrais, pour terminer, quelques minutes, dire quelques mots sur les gaz de Fermi dégénérés. Alors, les gaz de Fermi dégénérés, c'est beaucoup plus difficile, au premier abord. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, des fermions polarisés, nécessairement polarisés parce qu'ils sont dans un piège magnétique, ne peuvent pas entrer en collision dans l'onde S. Et s'ils ne peuvent pas entrer en collision dans l'onde S, leurs sections efficaces élastiques de collision sont très petites. Donc, le refroidissement par évaporation ne marche pas pour des fermions polarisés. Et c'est très difficile d'atteindre le régime de dégénérescence quantique T plus petit que TS. Alors, il y a une méthode élégante qui a été inventée pour contourner cette difficulté, qu'on appelle le refroidissement sympathique. Donc, ils ne peuvent pas entrer en collision quand ils sont tout seuls. Alors, on les mélange à des bosons. Alors, les bosons, eux, on peut les refroidir par évaporation. Ils sont froids. Et alors, à ce moment-là, rien n'empêche un fermion d'entrer en collision avec un boson, parce qu'il n'y a pas de principe de Pauli qui leur empêche. Et à ce moment-là, par contact thermique, par collision, les fermions peuvent être évaporés par collision avec des bosons qui ont été refroidis. Donc on refroidit une espèce et on refroidit notre espèce par collision, c'est ce qu'on appelle le refroidissement sympathique. On peut même d'ailleurs utiliser que des fermions, mais dans deux états de spin différents. À ce moment-là, s'ils sont dans deux états de spin différents, rien ne leur interdit d'entrer en collision, dans des spins différents, et à ce moment-là, on peut les refroidir de manière évaporative. Un autre intérêt des mélanges bosons-fermions, c'est que c'est pas facile de mesurer la température d'un gaz de Fermi, alors que c'est plus facile de la mesurer pour un gaz de Bose. Pour un gaz de Bose, vous avez vu la structure bimodale, le piédestal thermique et le pic de condensat. Le piédestal thermique est décrit par une fonction de Bose, c'est un équilibre thermodynamique, et en citant le piédestal à une formule théorique, on peut mesurer la température. Donc, si on mélange des bosons et des fermions dans le même piège, ici sont en équilibre thermique, la mesure de la température des bosons donne automatiquement celle des fermions. Alors, il y a aussi une question intéressante, c'est que même si on a deux isotopes différents, le lithium-6 et le lithium-7, dans le même piège, il y a quelque chose de très intéressant, c'est très agréable, c'est que, à cause du déplacement isotopique, la raie de résonance du lithium-6 n'est pas la même que la raie de résonance du lithium-7, et en réglant la fréquence, la longueur d'onde du laser, on peut imager séparément le nuage de fermions et le nuage de bosons. Donc on peut les détecter séparément l'un et l'autre. Ça, c'est extrêmement important aussi. Ceci dit, l'entrée dans le régime de dégénérescence quantique est beaucoup moins spectaculaire pour les fermions que pour les bosons, parce qu'il ne se traduit pas par cette existence d'une structure bimodale dans la distribution de position. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est l'heure, je m'arrête une demi-heure, et dans le prochain cours, à 11h, d'une part, je termine rapidement le cours sur les gaz quantiques dégénérés en présentant un certain nombre de résultats spectaculaires, et je présenterai une conclusion générale de cet enseignement. Je vous remercie.